chers auditeurs et chères auditrices, nous continuons notre très importante série Le message de la croix jusqu'au triomphe final. Nous en sommes à l'étude numéro 8. Donc, le titre pour aujourd'hui sera « Quelles sont les richesses insondables de Christ ?» Les relations infiniment variées qui unissent le Christ à son Église et l'Église au Christ peuvent s'exprimer par les verbes suivants. Premièrement, d'une part, enseigner et d'autre part, apprendre. Deuxièmement, d'une part, conduire et d'autre part, suivre. Troisièmement, gouverner et obéir. Quatrièmement, aimer et aimer en retour. Cinquièmement, d'une part vivifier et d'autre part être vivifié. Sixièmement, établir et d'autre part s'édifier. Septièmement, bénir et d'autre part être une bénédiction. Donc nous reprenons premièrement, on a dit enseigner et apprendre. En effet, Christ est le docteur. Il est le professeur. Et nous sommes les élèves. Saint Matthieu, chapitre 23, verset 8. Donc, Christ est le modèle, il est l'exemple qui est à suivre. Saint Jean, chapitre 13, versets 14 et 15, et la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 21. Il a dit, apprenez de moi. Saint Matthieu 11, verset 29, et Éphésiens, chapitre 4, verset 20. Donc notre devoir, c'est de faire honorer en toutes choses l'enseignement de notre Dieu Sauveur et Seigneur. Tite, chapitre 2, verset 10. Je répète, n'oubliez jamais que ces études sont pour vous qui désirez servir Jésus-Christ et ainsi devenir 100% qualifié. Ce sont donc des études très élaborées. Continuons. L'Église est une école. Le disciple, c'est son élève. Deuxièmement, nous avons conduire et suivre, rappelez-vous. Deuxièmement, conduire et suivre. En effet, Jésus est le berger et nous sommes son troupeau, hors de la bergerie d'Israël et hors des civilisations du monde. Il a rassembler tous les siens en un seul troupeau. Notez, s'il vous plaît, Saint Jean, chapitre 10, verset 1 à 5, et le verset 16, toujours de Saint Jean, chapitre 10. Donc, Jésus-Christ est le bon pasteur, et comme tel, il a donné sa vie pour nous, pour ses brebis. Notez Saint Jean, chapitre 10, verset 11, et le verset 15, et ajoutez le psaume 22. Il est également le grand pasteur, et comme tel, il est sorti de la tombe dans la puissance du sang de l'Alliance éternelle. Hébreux chapitre 13, versets 20 et 21, et psaume chapitre 23. Jésus-Christ est le souverain, oui, le souverain pasteur, et comme tel, Jésus-Christ reviendra et donnera la couronne de gloire à tous ceux qu'il a établis sur son troupeau. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 4, et les versets 2 et 3, ainsi que le psaume 24. Chers amis, dans l'âge présent, comme berger, Jésus-Christ remplit un septuple service. Voyons cela de plus près. Premièrement, il nous appelle, Saint Jean chapitre 10, verset 3. Deuxièmement, il nous conduit, psaume 23, verset 3. Troisièmement, il nous nourrit, psaume 23, verset 2. Quatrièmement, il nous connaît, Saint Jean 10, verset 14 et 15, et le verset 27. Cinquièmement, il nous protège, Saint Jean chapitre 10, verset 28 à 30. Sixièmement, il nous guérit. Premier épître de Pierre, chapitre 2, versets 24 et 25. Et septièmement, il nous porte à la maison. Et quelle maison ! Saint Luc, chapitre 15, versets 5 et 6, ainsi que Ésaïe, chapitre 40, verset 11. Troisièmement, nous avons, rappelez-vous, gouverner et obéir. En effet, Christ, il est notre Seigneur, il est notre gouverneur et le commandant. Et nous sommes donc ses serviteurs. 1 Corinthiens 4, verset 1. Nous ne sommes pas seulement ses serviteurs, nous sommes ses sujets. Jude, verset 4. Nous sommes également ses soldats. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3 et 4. Nous sommes également, selon 2 Corinthiens 6, verset 7, concitoyens des saints. Éphésiens 2, verset 19. Donc, nous formons un peuple. 2 Corinthiens 6, verset 16 et Tite, chapitre 2, verset 14. Nous formons un royaume de sacrificateurs. Apocalypse, chapitre 1, verset 6, dont le droit de cité se trouve dans les cieux. Philippe, chapitre 3, verset 20, Oui, dans le royaume du Fils. Colossiens 1, verset 13. Le royaume a sa loi. C'est la loi de Christ. Galates chapitre 6, verset 2. Aussi croire, c'est en même temps obéir. Eh oui. Sans compter que obéir veut aussi dire, et je le dis pour moi pour pas vous effrayer, ça veut dire aussi avoir de la discipline. Je demande souvent au Seigneur, donne-moi davantage de discipline pour obéir. Donc, c'est d'avoir confiance et c'est d'être digne de confiance. L'apôtre Paul, ou si vous voulez, l'apôtre de la liberté, parle de garder les commandements. 1 Corinthiens 7, verset 19. Du reste, lui-même, il ordonne 2 Thessaloniciens 3, verset 6, et il conjure 2 Timothée 4, verset 1. Pour l'apôtre Paul, incroyance est synonyme, écoutez bien ça, est synonyme de désobéissance. C'est très fort cela. Tous ceux qui refusent la main tendue de notre Sauveur et Seigneur bien-aimé sont premièrement des incroyants, mais en plus, qu'on le veuille ou pas, en quelque sorte, ils désobéissent. Romains 10, verset 3. Et de ce fait, je vous pose simplement la question. Croyez-vous vraiment, même si c'est votre propre parenté, croyez-vous vraiment qu'ils seront automatiquement sauvés et qu'ils iront au ciel? Je vous pose simplement la question. La conversion étant un acte d'obéissance et de soumission. Et de soumission. Acte 26, verset 19. Quant au message de l'Évangile, c'est un commandement à la repentance. Eh oui, si un jour vous avez le courage, je m'adresse à ceux qui ne sont pas encore sauvés, pas à vous qui êtes déjà sauvés. Donc, ne mélangeons pas les choses et je ne voudrais pas attrister qui que ce soit. Mais quand j'ai lu pour la première fois l'évangile de Saint Jean, j'ai rien compris. Il a fallu que je le lise 3 fois pour comprendre que j'étais vraiment perdu. Mon épouse, qui était beaucoup plus, comment est-ce qu'il faudrait dire, il faut être humble et pas avoir peur de dire, elle était plus intelligente que moi. Elle a lu seulement 1 fois, puis elle a tout compris. Oh oui, 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 ça remet les pendules à l'heure. Notez Acte 17, verset 30. S'il a racheté et arraché à la loi du péché et de la mort, selon Romains chapitre 8, verset 1 et 2, et par là même, s'il a racheté et libre à l'égard de la loi de Moïse, selon Romains 3, verset 21 et chapitre 7, verset 1 à 6, il ou elle n'en est pas pour autant sans loi. Il ou elle est maintenant maintenant, sous la loi de Christ. 1 Corinthiens 9, verset 21. Et c'est cette loi-là qu'il ou elle doit accomplir, Galates 6, verset 2, en marchant dans l'obéissance de la foi. Romains 1, verset 5, Romains, on peut dire toujours, oui, toujours le chapitre 1, ajouter les versets 15 et 18, ainsi que toujours Romains, mais chapitre 16, verset 26. La grâce veut donc régner par la justice. Romains 5, verset 21. Je répète cela parce que c'est important, mais sans les indications bibliques pour mieux le comprendre. C'est cette loi qu'il doit accomplir en marchant dans l'obéissance de la foi. C'est cette loi-là que vous et moi devons accomplir en marchant dans l'obéissance de la foi. La grâce veut ainsi régner par la justice. Cette loi du Nouveau Testament, c'est la loi de Christ quant à ses origines. Galates, chapitre 6, verset 2. Cette loi, c'est la loi de liberté quant à sa nature. Jacques, chapitre 1, verset 25 et chapitre 2, verset 12. C'est la loi d'amour quant à son contenu. Romains 13, verset 8 à 10. Et Jacques, chapitre 2, verset 8, et ajouté Galates, chapitre 6, verset 2. Cette loi du Nouveau Testament, c'est la loi de l'Esprit Saint quant à sa puissance. Romains 8, verset 2. C'est la loi de l'Esprit Saint de vie quant à son effet. Romains 8, verset 2. C'est la loi parfaite quant à sa qualité. Jacques 1, verset 25. C'est la loi royale quant à sa dignité. Jacques 2, verset 8. Dans l'Ancien Testament, c'est comme homme naturel que l'homme devait faire face à la loi de Dieu, étant dans la chair, et de là, étant impuissant, donc l'impuissance de la loi. Romains 8, verset 3. Dans la nouvelle alliance, par contre, la créature que nous sommes est maintenant un nouvel homme, une nouvelle femme dans l'Esprit Saint, et de là, nous avons maintenant la victoire. Romains 8, versets 1 à 4. Dans l'ancienne alliance, la loi inscrite sur des tables de pierre, cette loi restait extérieure, agissant en quelque sorte comme l'être qui tue. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3 à 6. Dans la nouvelle alliance, Dieu inscrit sa loi dans l'entendement. Hébreux 8, verset 10. Et il l'inscrit maintenant non pas sur des énormes panneaux de roches, de pierres. C'était fabuleux. Moïse avait beaucoup de force pour les porter. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu inscrit maintenant sa loi, j'ai dit dans l'entendement, et sur des tables de chair. Ça veut dire par l'Esprit Saint du Dieu vivant. 2 Corinthiens 3, verset 3. Ainsi, l'Église est maintenant un peuple qui a pour gouverneur le Seigneur Jésus. Jude, verset 4. L'Église a pour loi sa volonté. Galates, chapitre 6, verset 2. L'Église a pour richesse sa magnificence. Éphésiens 3, verset 16. L'Église a pour gloire son honneur. 1 Corinthiens 1, verset 31. L'Église a pour territoire toute la terre. Romains 10, verset 18. L'Église a pour capitale la Jérusalem céleste. Galates 4, verset 26. On en parlera un peu plus tard de la Jérusalem céleste. Quatrièmement, nous avons aimé et aimé en retour. En effet, Jésus-Christ, il est lui, celui qui aime, qui nous aime, et l'Église est de ce fait sa bien-aimée. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 2 et 3. C'est un peu comme si un prince oriental découvrait au sein d'un groupe d'esclaves, une jeune esclave qui fasse vibrer son cœur, il l'achète à grand prix afin de la revêtir d'habits magnifiques et de faire d'elle sa femme en l'élevant au trône royal. Jésus-Christ, de la même manière, nous a vraiment aimé, alors que nous étions esclaves du péché. Et croyez-moi, j'en faisais partie de ceux-là. Il s'est donné lui-même, compris de notre pour notre rachat. Maintenant, il nous purifie par le lavage d'eau et par la Sainte Parole, et bientôt il se présentera, ou si vous voulez, il présentera son Église entière, et elle sera sans tache ni ride, c'est-à-dire dans la sainteté et la beauté de l'éternelle jeunesse. Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 27. Dans l'image de l'amour conjugal, toute l'œuvre du Christ pour son Église est contenue. Le choix, c'est par son amour. Éphésiens 5, verset 25. Tel que le rachat, c'est par le don de lui-même. Éphésiens 5, verset 25. telles que la purification. C'est par son pouvoir. Éphésiens 5, verset 26. Telles que la glorification. C'est par son retour. Éphésiens 5, verset 27. Le célèbre Augustin l'avait écrit que ceux que Dieu savait qu'ils allaient l'accepter, lui et son fils Jésus-Christ, il les a aussi appelés hors du monde. Il les a aussi justifiés dans le monde et glorifiés après le monde. Romains 8, verset 28, plutôt verset 29 et 30. Et c'est pourquoi notre vie, elle appartient à lui seul. Notre âme devrait être animée à toujours du premier amour. J'ajoute notre âme et notre esprit. Cet amour que Dieu associe à l'arbre de vie dans sa lettre à l'église d'Éphèse, selon die Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse, chapitre 2, versets 4 et 16, c'est l'amour pour Jésus-Christ. En effet, c'est la vie. Celui qui n'aime pas ne vit pas, mais celui et celle qui vit de cette vie-là ne peut jamais mourir. Comme entre Yahvé et Israël dans l'Ancien Testament, il existe également une relation d'amour entre Christ et l'Église, mais à un degré bien plus glorieux. L'Esprit de Dieu emploie la plus haute relation d'amour que connaisse l'expérience humaine pour l'appliquer à la fois à Israël et à l'Église. Notez les citations suivantes. Osée, chapitre 2, versets 21 et 22. Ézéchiel, chapitre 16, verset 23. Ésaïe, chapitre 62, verset 5. Psaume 45. Et j'ai dit à l'Église, donc, Éphésiens, chapitre 5, versets 31 et 32. La conjonction de ces deux, c'est la Jérusalem céleste, c'est la cité où demeureront tous les rachetés, dit Offenbarung, Apocalypse 21, verset 2. C'est la cité sainte, c'est la fiancée. Et c'est la femme de l'agneau. Apocalypse 21, versets 9 et 10, et le chapitre 19, verset 7. Nous avons cinquièmement, si on se rappelle, vivifié et être vivifié. Une profonde unité de vie découle de la communion organique des membres avec le Christ. Déjà l'image du mariage indiquait cela avec clarté. Les deux deviendront une seule chair. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Éphésiens 5, versets 31 et 32. C'est comme comparaison, vous pouvez prendre par exemple une personne qui s'appellerait Diva de Vera et qui se marierait avec Jean-Jacques. Le Nouveau Testament compte de nombreuses autres illustrations. Et comment? Christ, il est le cep, et nous, nous sommes les branches. Jean 15, verset 1 à 5. Christ est la tête, et nous sommes les membres. Éphèse, chapitre 1, verset 22 et 23. Le chrétien est un arbre enraciné en Christ. Colossiens 2, verset 7. De ce fait, il est comme une plante. Matthieu, chapitre 15, verset 13 et 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 6 à 9. Il est comme une plante plantée ensemble avec Jésus-Christ. Romains 6, verset 5. Disons que A, il y a la relation des membres à la tête, c'est-à-dire la plus importante de ces figures est celle du corps, c'est l'Église et les croyants. En effet, l'apôtre seul en parle. Donc, l'Église, c'est en quelque sorte l'expression la plus élevée de la communion bénie du Christ avec le, avec la croyante. L'Église est donc son corps, Éphésiens 1, verset 23. Une seule volonté régit le corps, et c'est la tête Jésus-Christ, Colossiens 1, verset 18. Chaque membre est en relation individuelle avec la tête. Il n'y a entre Christ et nous ni homme ni ange. 1 Timothée 2, verset 5. Il convient donc que nous nous attachions à la tête, que nous nous attachons à la tête. Colossiens 2, versets 18 et 19. En effet, chers amis, personne n'a jamais haï sa propre chair. On ne devrait pas. Mais il la nourrit et en prend plus ou moins soin, comme Christ le fait pour l'Église. Éphésiens 5, verset 29. L'Église s'édifie par l'accroissement que Dieu donne. Colossiens 2, verset 19. Et c'est de lui, de Dieu, que tout le corps tire son accroissement et s'édifie dans l'amour. Éphésiens 4, verset 16. Comme dernier Adam, Christ ne saurait être complet sans son corps. Le grain de blé sans l'épi serait seul. Jean, chapitre 12, verset 24. L'Église est donc la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Elle est l'achèvement de celui qui amène à l'achèvement toutes choses en tous. Éphésiens 1, verset 23. À travers tous ces privilèges, l'Église est la manifestation de la vie du Christ. De même que le corps est l'organe par lequel se révèle l'esprit, Ainsi, c'est par l'Église que est donnée à connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Notez Éphésiens chapitre 3, verset 10. Pourquoi ? Parce qu'elle est en Christ et Christ est en elle. Colossiens 1, verset 27. L'Église est comme la continuation sur la terre de l'incarnation de son Seigneur. En elle, à travers ses membres, le Christ élève, ou plutôt élevé, le Christ élevé acquiert une forme et il révèle ici-bas sa vie ainsi prolongée dans l'histoire. Galates chapitre 4, verset 19. Et B, nous avons eu A et B, il y a les relations des membres entre eux. En effet, le corps est aussi la figure la plus expressive de la communion chrétienne. À ce sujet, 1 Corinthiens 12 est le texte principal. Il se forge ainsi une unité. Et cette unité est plus profonde que toute unité nationale et plus large que toute communauté internationale. Galates chapitre 6, verset 10. Elle unit indissolublement des hommes et des femmes qui ne peuvent se voir et qui ne peuvent se connaître ici-bas. Étrangers de ce fait, les uns aux autres, ils s'aiment cependant de tout leur cœur. Colossiens chapitre 2, versets 1 et 2. Et comme le corps est un et qu'il a plusieurs membres, ainsi en est-il de Christ. 1 Corinthiens 12, verset 12. C'est donc un organisme, non pas une organisation. Ça, c'est le corps de Christ. Ça, c'est la création de Dieu et non pas une œuvre humaine. Le secret de son unité, c'est la tête. Donc, c'est Christ. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui, lui, est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. L'unité de l'Église est de ce fait triple. Il y a unité d'esprit, unité de vie. Il y a réalité déjà présente par la foi. Éphésiens 4, verset 3. Il y a unité de pensée. Ça, c'est notre devoir. C'est par l'amour qu'elle peut s'accomplir. Philippe, chapitre 1, verset 27. Chapitre 2, verset 1 à 4. Et toujours Philippiens, chapitre 4, verset 2. Il y a unité de connaissance. Le but, c'est une partie de notre espérance. Éphésiens 4, verset 13. L'unité de vie regarde vers le passé elle regarde vers l'œuvre de Golgotha. Ça, c'est l'unité qui nous a été acquise à la croix. L'unité de pensée, c'est le devoir du présent. C'est l'unité de dessein, mais pas toujours, hélas, parce que nous sommes divers. Nous ne sommes pas des robots ou des clones. Alors il n'y a pas toujours unité absolue concernant les opinions. Romains 14, versets 1 à 7. L'unité de connaissance, c'est la mesure parfaite. Éphésiens 4, verset 13. C'est la mesure parfaite de notre avenir. Dans les choses nécessaires, il y a unité. Dans les choses indécises, il y a liberté. Et en toutes choses, il y a surtout la charité. Le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Veuillez donc noter 1 Corinthiens 12, versets 14 et 17, ainsi que Romains, chapitre 12, verset 4 jusqu'au verset 8. Entre chrétiens, il devrait y avoir une dépendance mutuel. Oui, chacun de nous est limité. Moi, vous pouvez me croire, j'en sais quelque chose. Chacun de nous a donc besoin de tous. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Non seulement ils sont dépendants les uns des autres, mais encore, Dieu a couvert d'un plus grand honneur le dernier d'entre tous. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 21 à 25. Entre chrétiens, et je suis poli, il devrait y avoir la compassion mutuelle. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, avec elle. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui, avec elle. 1 Corinthiens 12, verset 26. Entre chrétiens, il devrait également y avoir un service commun. Chaque membre est au service des autres. Tous servent le corps entier. Ainsi, tout le corps est assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens. Colossiens 2, verset 19. Bien coordonné, grâce à tous les liens de l'assistance du Christ, ils forment un solide assemblage et tirent son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties. Éphésiens 4, verset 16. Chaque membre a sa tâche. Dans le royaume de Dieu, la communion des enfants de Dieu est une communion dans le travail en vue de la communion dans la victoire. Entre chrétiens, il devrait y avoir une croissance commune. Elle se poursuit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenu à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, c'est-à-dire à l'état d'homme et de femme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, verset 13. Sixièmement, rappelez-vous, nous avons établir et s'édifier à la figure du corps. L'Écriture sainte lie étroitement celle de l'édification d'un bâtiment. Les deux images sont entremêlées. L'édifice grandit, Éphésiens 2, verset 21, et le corps s'édifie, Éphésiens 4, verset 12. Le Christ est donc la pierre angulaire, 1er épître de Pierre, chapitre 2, verset 6. L'Église est une maison de Dieu. Ah oui, l'Église est un temple. Et cette image s'applique à la fois à l'Église universelle, Éphésiens 2, versets 21 et 22, et 1er épître de Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5, et également à l'Église locale, 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, et en plus aux chrétiens considérés individuellement. 1 Corinthiens 6, verset 19 et Éphésiens chapitre 3, verset 17. Le fondement, c'est le Seigneur lui-même. Personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé. 1 Corinthiens 3, verset 11. La pierre de fondement de l'Église, c'est la messianité historique de Jésus de Nazareth et la filiation supra-historique à Dieu telle que le confesse l'apôtre Pierre en ces mots suivants. Rappelez-vous, il a dit quelque chose de grandiose qui a été dit par l'Esprit Saint en lui, pas par lui-même. Il a dit, tu es le Christ, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Ça n'a rien à faire avec le Vatican, excusez-moi. Je n'aime pas faire de la politique, pas du tout, et je n'en veux à personne. Mais j'ai le droit de dire que l'apôtre Pierre n'est pas du tout la pierre, en quelque sorte, sur laquelle aurait été construit ou fondé, et je n'en dis pas plus. Saint Matthieu 16, versets 16 à 18, je ne veux jamais blesser qui que ce soit. J'ai beaucoup trop souffert pour faire une chose pareille. Nous devons nous aimer les uns les autres avec nos imperfections. Et moi, je suis le plus imparfait. Les pierres sont donc extraites de deux carrières, des juifs et des non-juifs, elles sont jointes en un saint temple. Éphésiens 2, versets 11 et 12, et chapitre 2, versets 21 et 22. Des pierres mortes, elles viennent maintenant à lui, qui est le vivant. Et par l'Esprit Saint, ces pierres mortes sont elles-mêmes rendues quoi ? Rendues vivantes. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2 versets 4 et 5. Leur foi en Christ est en même temps, oui, en même temps, une foi sur lui, un repos et une édification. Jude verset 20 et 1 Corinthiens chapitre 14 versets 22 et 26. Sur Christ, qui est la pierre angulaire. En effet, leur foi en Christ est en même temps une foi sur lui, c'est un repos et une édification sur Christ qui, lui, est la pierre angulaire. Ésaïe 28, verset 16. Et c'est pour cela que le Nouveau Testament parle non seulement d'une foi en Christ, d'une foi vers Christ, mais encore d'une foi sur Christ. Romains 9, verset 33 et 1 Pierre, chapitre 2, verset 6. Le but de cette maison, c'est d'être un temple, c'est d'être une maison spirituelle. 1er épître de Pierre, chapitre 2, verset 5. Les pierres de l'édifice sont en même temps sacrificateurs à l'autel. 1er épître de Pierre, chapitre 2, verset 5, et Hébreux, chapitre 13, verset 10. Les conducteurs sont des colonnes dans le temple de leur Dieu, Galates 2, verset 9, et Die Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse, chapitre 3, verset 12. Ceci nous montre déjà que l'Église est une sacrificature. Et septièmement, chers amis, nous avons pour terminer notre étude, bénir et être fait bénédiction. L'Église est un peuple saint. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Christ est le souverain sacrificateur et nous, nous sommes les sacrificateurs également. Hébreux, chapitre 8, verset 1 et Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Et comme tel, nous avons un quadruple service. Voyons ça un peu de plus près. Nous avons l'offrande, nous offrons. Qu'est-ce que nous offrons? Nous offrons notre vie comme un sacrifice. Romains 12, verset 1. Nous offrons notre piété comme une offrande consumée. Saint Marc 12, verset 33. Nous offrons notre service comme une libation. 2 Timothée, chapitre 4, verset 6 et Philippiens, chapitre 2, verset 17. Nous offrons nos œuvres. Ce n'est pas elle qui nous mène au salut, mais vous l'avez compris. Nous offrons nos œuvres comme des sacrifices spirituels. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 5. Nous offrons nos prières comme offrande de bonne odeur. Psaume 141, verset 2 et Apocalypse, chapitre 5, verset 8. Nous offrons nos louanges comme offrande d'adoration. Hébreux 13, verset 15. Nous offrons la prière dans sa chambre solitaire. Le chrétien embrasse le monde entier. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2. Le chrétien prie et il rend grâce pour les autres. Oh oui, il devrait, elle devrait. L'Esprit Saint intercède pour lui et pour elle par des soupirs inexprimables communiquant à sa prière l'énergie divine. Romains 8, versets 26 et 27. Nous avons le témoignage, car les lèvres du sacrificateur doivent être de diffuser l'évangile absolument partout et par tous, et je répète, par tous les moyens, car il est l'évangile, un envoyé, plutôt l'évangéliste, un envoyé de Yahvé des armées. Vous êtes, vous, hommes et femmes, nés de nouveau, vous êtes devenus, non pas des personnes pour s'asseoir dans un fauteuil derrière la télévision, mais vous êtes devenus des envoyés de Yahvé l'Éternel. Malachi chapitre 2 verset 7. Chers amis, nous terminons par la bénédiction. Nous avons pour terminer la bénédiction. Parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Nombre 6, verset 23 jusqu'au verset 27. Ainsi bénir, cela veut dire mettre le nom du Dieu Tout-Puissant sur quelqu'un. C'est pour cela que seul sera une bénédiction celui et celle qui conduit les autres vers Dieu par la Sainte Parole et par le témoignage de sa, de notre conduite. Et des fois, le Seigneur doit me reprendre parce que parfois je plaisante et je dis aujourd'hui je ne peux pas payer mon café, je payerai quand la situation mondiale ira mieux. Ce n'est pas dangereux ce que je dis, mais le Seigneur me montre que je dois apprendre à éviter ce genre de choses. Chers amis, voyez, nous avons tous des lacunes, moi le premier. Dans la nouvelle alliance, le sacerdoce sera universel. Chacun aura sa portion sacerdotale à l'autel. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13. Ils forment ainsi tous un royaume de prêtres, ce que Dieu voulait déjà pour son peuple. Et cela, rappelez-vous, dans l'Ancienne Alliance, Exode 19, verset 6. Pour chacun d'entre nous, la promesse sera pleinement réalisée. Je te bénirai et tu seras une bénédiction. Genèse 12, verset 2. Amen. Chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études qui sont loin d'être pour des débutants. Et c'est pour cela. ne soyez pas trop fiers. Essayez d'être parfois un peu humble et dites-vous, j'ai peut-être pas tout à fait tout compris. Alors je vais réécouter ce CD. Ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux non plus d'être humble. Et moi le premier, je dois vous avouer, et je le répète, j'étais tellement bête que j'ai dû lire 3 fois l'évangile de Saint Jean pour comprendre que j'étais perdu, pour utiliser le langage des jeunes d'aujourd'hui, que j'étais foutu pour toute l'éternité. Prions. Ô Dieu de fidélité, toi, notre Père à tous, toi qui es riche en compassion et en bonté, tu veux que durant notre terrestre voyage, nous sachions nous reconnaître tous pour être tes enfants. Et qu'en ce jour, nous contemplions avec joie et avec reconnaissance le plus grand de tes fils, qui est notre frère aîné, qui est notre sauveur et Seigneur, qui regarda un jour le monde avec des yeux d'enfant, tout faible et vulnérable comme le sont nos petits à nous. Tu l'as protégé après sa naissance contre tous les dangers. Tu l'as fortifié dans ton alliance, dans ton amour, et il grandissait en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. Permets, ô Seigneur, que nos enfants bien-aimés, à leur tour, puissent parvenir dans ton Église à la communion avec toi. Que ta main tutélaire et ta bénédiction reposent sur eux aussi pour les préserver du mal, pour qu'ils croissent, qu'ils grandissent dans ta connaissance, dans ta crainte et dans ton amour, pour qu'avec nous, enfin, ils montent sans cesse et qu'ils soient ainsi élevés jusqu'à ton royaume éternel. Ainsi soit-il. Amen. Chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et Dieu voulant, à demain matin, et pour la suite de cette série, bien sûr, n'oubliez jamais, il y a des exemples qui sont donnés, soit par la radio ou la télévision ou par les journaux, où un jeune homme part en trombe, il pleut à l'averse, il part avec sa moto super puissante pour rejoindre ses amis dans une disco et en route. Il a manqué une courbe, un virage en épingle et il est mort sur le coup. Je vous demande, j'espère pour lui que c'était un chrétien sauvé, né de nouveau. J'espère pour lui. Mais supposons qu'il ne l'était pas. Oh, vous allez me dire que je suis ringard, que je suis peut-être même un imbécile. Mais réfléchissez, où croyez-vous qu'il va passer son éternité ? Oh, ce n'est pas moi qui vous donnerai maintenant la réponse. Vous pouvez la trouver par vous-même. Mais c'est très sérieux tout cela, très, très sérieux. Vous savez, bien que moi, je suis aujourd'hui plus dans le même ou dans la même position que ce jeune homme, il n'est pas certain que demain, je puisse vous donner la suite de cette série. Car à 88 ans, ce n'est pas garanti absolu. Mais c'est pour ça que je dis, je vis comme vous, par la grâce, par l'amour et la charité du Seigneur. C'est lui qui a notre vie entre ses mains. Chers amis, à demain matin pour la suite de cette série, croyez-moi, qui est de la plus haute importance. À bientôt. Au revoir.